correspondance de la famille Brontë. Lettre choisie par Julie Aminte et traduite par Constance Lacroix. Cinquième et dernier épisode, Madame Charlotte Bell Nichols.
Après les décès successifs de Branwell, d'Emily et de Anne, tous les trois emportés par la tuberculose, Charlotte et son père sont plongés dans un chagrin et un isolement profond dont ils ont du mal à sortir. C'est finalement par le travail qu'une forme d'apaisement survient. Charlotte publie son deuxième roman, Shirley, multiplie les allers-retours à Londres, approfondit ses relations avec ses éditeurs et rencontre de nombreux écrivains. Prise dans ce relatif tumulte, elle ne prête guère attention à Arthur Bell Nichols, qui est le vicaire de son père depuis 7 ans. Sa surprise est donc grande quand il la demande en mariage. Elle le refuse, encouragée par son père que cette démarche de son vicaire a offensé. Un an plus tard, en janvier 1853, Charlotte est à nouveau à Londres pour la publication de son troisième roman, Villette, qui doit paraître cette fois sous son vrai nom. Son père lui envoie des nouvelles de Haworth et d'Arthur Bell Nichols. Le révérend Brontë à Charlotte. Fragment.
Haworth, janvier 1853. Tu souhaites sans doute savoir comment vont nos affaires. Hier, j'ai prêché à 2 reprises, et notre homme s'est comporté de la plus étrange façon. Il m'a fui comme si j'étais un cobra di cappello, s'est ostensiblement abstenu de regarder de mon côté, et s'est éloigné précipitamment à mon approche en se frayant un chemin sans ménagement parmi l'assistance. Il n'était pas besoin d'être un lavater pour reconnaître sur ses traits tous les signes de la vanité blessée, de la rancune et de l'animosité. Les gens d'ici commencent à s'en aviser, et d'ores et déjà, les spéculations vont bon train. Tu me trouvais trop sévère. Je n'ai pas été aussi franc pourtant qu'il eût fallu. Le monde pourrait encore excuser pareille conduite de la part d'un débauché notoire ou d'un officier aux mœurs dissolues, mais quand il s'agit d'un ecclésiastique, l'on est en droit de fustiger sa vile ambition et son inconséquence. Je voudrais de tout mon cœur qu'il obtienne quelque autre poste plus avantageux, car je ne pourrai plus jamais me fier à lui dans les questions d'importance. Je ne lui veux pas de mal, je ne souhaite au contraire que son bien, et aussi que toute femme puisse toujours se garder de lui comme de la peste, à moins qu'elle ne soit résolue à faire son propre malheur. Toutes les pépites des mines d'Australie ne suffiraient pas à rendre heureux un tel homme et celle qu'il épouserait. Tabby se porte comme à l'accoutumée. Je lui ferai tes compliments. Martha s'affaire avec gaieté et diligence, toujours disposée à voir les choses sous le jour le plus favorable. Elle vaque à tous les soins du ménage et emploie ses moindres loisirs à confectionner robes, jupons, tabliers, etc. Toutes deux t'envoient leur respect et leur affection et attendent avec impatience Villette. Ton père, qui t'aime tendrement. Patrick Brontë.
Le révérend Brontë à Charlotte.
Haworth, janvier 1853. Flossie à sa chère et vénérée maîtresse, Miss Brontë. Ma bonne maîtresse, bien que mes pattes ne me permettent pas d'écrire, je peux dicter. Et mon excellent maître s'est offert à transcrire tout ce que j'avais à dire. Il entend parfaitement le langage canin, dont le lexique n'est guère abondant, quoique fort expressif et amplement suffisant pour traduire nos desseins et nos besoins, qui sont peu nombreux. Je crains que mon maître ne rende pas fidèlement mon sobre parler et qu'il n'écrive davantage dans son propre style, ce que je juge déplacé ici et de mauvais aloi. Vous avez daigné m'envoyer vos compliments, faveur dont je vous suis très reconnaissante, et en signe de gratitude, j'ai balayé 3 fois le plancher de ma queue. Laissez-moi à présent vous peindre en quelques mots l'état de mes affaires et les menus événements de mon petit monde qui, tout petit qu'il est à vos yeux, ne m'en paraît pas moins vaste. Je me fais vieille aujourd'hui et les amusements de mon jeune temps ont perdu leur saveur première. Je ne me plais plus, comme jadis, à poursuivre moutons, chats et oiseaux et je ne peux plus ronger les os comme je le fis un jour. Toutefois, je suis encore pleine de gaieté, de santé et d'entrain. Comme on se permet devant moi 1000 choses dont on se garderait si je pouvais parler, je vois se révéler nombre d'aspects de la nature humaine que l'on dérobe aux yeux de ceux qui ont reçu le don de parler. J'observe donc tous les manèges des hommes et suis témoin de bien des agissements que l'on s'interdirait si j'étais à même de les rapporter. Ah, ma chère maîtresse, fiez-vous aux chiens plutôt qu'aux hommes, car ce sont là des créatures égoïstes et qui, pour peu qu'on leur laisse prendre trop d'ascendant, se font de redoutables tyrans. Puissiez-vous toujours agir avec discernement envers hommes, femmes et chiens. Tel est le vœu le plus sincère de votre vieille Flossie.
Villette paraît à la fin du mois de janvier. Il est plutôt bien accueilli par la critique. Charlotte retourne à Haworth. Mr. Nichols semble toujours aussi accablé par son refus, ce qui ébranle la jeune femme. Quelques mois plus tard, il obtient un poste dans une autre paroisse et quitte le village d'Haworth. Charlotte à Hélène Nassy.
Haworth, le 27 mai 1853. Chère Hélène, vous allez me demander comment se sont déroulés les adieux de Mr. Nichols. Il m'est bien pénible de revenir sur ces événements, mais je serai brève. Ses paroissiens lui ont remis un témoignage de leur considération au cours d'une cérémonie publique. Papa était un peu souffrant, et je lui avais recommandé de rester à la maison, avis qu'il a suivi. Quant à son ultime dimanche, ce fut un combat déchirant. Il eût mieux valu exempter Mr. Nichols de toute obligation ce jour-là. Il a quitté Haworth ce matin, à 6 heures. Hier soir, il est venu restituer à papa les registres de l'école et prendre congé. On se livrait justement à un grand ménage de la salle à manger dont on lessivait les peintures. Ce fut en vain qu'il m'y chercha. Pour moi, je ne voulais pas aller lui parler au salon sous les yeux de papa. Il s'en fut donc, croyant ne jamais me revoir, et à la vérité, il me parut préférable jusqu'au tout dernier moment d'en demeurer là. Toutefois, je le vis longuement s'attarder au seuil du jardin. Je songeais alors au chagrin qui le minait depuis si longtemps, et m'armant de tout mon courage, je me glissai au dehors, tremblante et le cœur navré. Je le découvris appuyé contre le montant de la grille, en proie à un paroxysme d'affliction, sanglotant comme jamais femme ne sangloterait. J'allai droit à lui, naturellement. Nous n'échangeâmes guère que quelques mots, et encore ces derniers étaient-ils à peine intelligibles. Il y avait bien des choses que j'aurais aimé lui demander, mais toutes s'effacèrent soudain de mon esprit. Pauvre homme! Je ne pouvais lui offrir les encouragements et les espoirs auxquels il aspirait. Pour autant, il a désormais l'assurance, je n'en doute pas, que sa constance et sa douleur ne se sont pas brisées sur une cruelle et aveugle indifférence. La santé de papa donne bien des signes de faiblesse depuis quelque temps. Je n'ose pas prononcer le nom de Mr. Nichols en sa présence. Il se domine assez pour l'évoquer d'un ton serein et sans sarcasmes injurieux lorsqu'il converse avec des tiers, mais demeure intraitable avec moi. Qu'importe, le voici parti, Parti sans retour, l'affaire est close. Il est peu probable que j'entende jamais parler de lui à l'avenir, à moins qu'il ne me parvienne de ci de là quelques bribes de nouvelles. Cependant, ce n'est pas moi qui suis à plaindre en tout ceci, et au demeurant, personne n'y songe. Touhouer s'est persuadé que j'ai repoussé avec mépris son cœur et sa main. Si la compassion d'autrui pouvait apporter un peu de baume à Mr. Nichols, il la mérite bien. Et je ne crois pas qu'elle lui soit refusée. Que les gens vitupèrent donc contre moi si tel est leur bon plaisir, mais je ne sais pas s'ils le feront ou non. Écrivez-moi vite et dites-moi comment vont vos affaires. Mieux de jour en jour, je l'espère. Bien fidèlement, Charlotte Brontë.
En réalité, Charlotte ne coupe pas les ponts avec Mr. Nichols, mais correspond clandestinement avec lui, ce qui a le don d'exaspérer Hélène Nocy, très hostile au vicaire. Les deux amis se fâchent en juillet 1853 et ne se réconcilient que 7 mois plus tard, en février 1854, après que Charlotte, ayant appris la mauvaise santé d'Hélène, ne lui écrive. Et leur amitié repart alors de plus belle. Charlotte à Hélène Nocy.
Hours, le 11 avril 1854. Ma chère Hélène, voici le cours qu'ont suivi les choses depuis juillet dernier. Mr. Nichols vint en visite à Hours en septembre, mais les circonstances étaient telles alors que je ne le vis pas beaucoup. Il continua de m'écrire. Cette correspondance me pesait sur la conscience. Il m'était de plus en plus pénible de la cacher assis à papa. J'en conçus à la longue tant de souffrances que je trouvais enfin le courage de l'en informer. Je lui avouai tout. Ce fut un moment rude et éprouvant, mais il me valut, quand quelques jours se furent écoulés, la permission de demeurer en rapport avec Mr. Nichols. Ce dernier revint en janvier. Il séjourna une dizaine de jours dans les environs. J'eus l'occasion souvent de le voir. J'avais négocié avec papa la possibilité de faire plus amplement connaissance avec lui. Je l'obtins et ne découvris que de nouveaux sujets d'estime et sinon d'amour, du moins d'affection. Papa lui était toujours hostile, très hostile, avec une cruelle injustice. J'avertis Mr. Nichols qu'il aurait à surmonter de grands obstacles. Il a persévéré, cependant, et voilà, à l'issue de sa dernière visite, le consentement de papa acquis, de même je crois que son respect, forcé par le désintéressement et la patience de Mr. Nichols tout au long de cette affaire. Ce dernier a montré que malgré des sentiments d'une passion et d'une intensité inouïe, il sait pardonner généreusement. Assurément, je lui dois bien, moi aussi, mon respect, et je ne peux refuser de lui accorder un peu plus qu'un simple et froid respect. En un mot, chère Hélène, je suis fiancée. Mr. Nichols redeviendra vicaire de Hours dans les mois qui viennent. J'ai posé comme condition sans appel que je n'aurais pas à quitter papa, et à celui-ci, j'ai proposé un arrangement domestique qui devrait préserver sa tranquillité et son confort et tourner à son profit plutôt qu'à son détriment sur le plan financier. Ce qui paraissait jadis pure impossibilité est désormais chose convenue, et papa lui-même commence à l'envisager avec plaisir. Pour moi, chère Hélène, je rends grâce à celui qui semble m'avoir guidée parmi tant de traverses, tant de tourments et de dilemmes cruels. Mais je n'en suis pas moins d'humeur très posée. Mes attentes sont minimes. Le bonheur que je connais pour l'instant est des plus modérés. J'aimerai mon mari le temps venu, je n'en doute pas. Je lui sais gré de son tendre attachement. Je le crois d'un naturel affectueux, scrupuleux, éminemment moral. Et il faudrait être à mes yeux bien présomptueuse et bien ingrate pour me laisser aller à regretter qu'à tant de qualités ne se mêlent pas de brillants talents, des goûts et des opinions plus en harmonie avec les miens. Telle est la destinée que m'offre la Providence. Sans doute est-ce pour mon plus grand bien. Et je ne me priverai pas d'appeler de mes vœux un sort aussi heureux pour ceux qui me sont chers. Il n'est pas impossible que notre mariage ait lieu cet été. Mr. Nichols vous a mentionné avec la plus grande cordialité et a exprimé l'espoir que vous assisteriez à la cérémonie. J'ai répondu que je ne voulais pas d'autres demoiselles d'honneur. Ai-je bien fait ? Je souhaiterais que ces noces fassent littéralement le moins de bruit possible. N'en dites-moi à personne pour l'instant. Au revoir. Il y a un je ne sais quoi d'étrange, d'à demi mélancolique à vous annoncer ces nouvelles. Tout ceci diffère tant des tableaux que peint l'imagination avant l'heure. L'espérance se confond inextricablement avec les soucis, les craintes. Nous en reparlerons, j'y compte bien. Vous m'avez souvent manqué la semaine passée, et quand je le confiais à Mr. Nichols, Arthur, car c'est ainsi que je le nomme désormais, il me répliqua que c'était là précisément les seules circonstances où il n'eût pas été heureux de votre présence. Au revoir. Bien affectueusement, Charlotte Brontë.
Ainsi, avec la bénédiction de son père et de sa meilleure amie, Charlotte épouse Arthur Bell Nichols le 29 juin 1854. S'ensuit un voyage de noces en Irlande, pays dont le vicaire est originaire, et un retour à Haworth, où Charlotte tente le plus complaisamment possible de composer avec les envies et recommandations de son mari. Charlotte à Hélène Nessy.
Haworth, le 31 octobre 1854. Chère Hélène, Arthur se plaint de ce que vous n'avez pas promis explicitement de brûler mes lettres après lecture. Il lui faut, dit-il, un serment en bonne et due forme ou bien il lira chaque mot que j'écris et s'instituera censeur de notre correspondance. Les femmes, prétend-il, sont les épistolières les plus imprudentes qui soient. Elles se fient à la discrétion de leur destinataire immédiat sans songer un instant aux risques auxquels elles s'exposent. Une lettre peut tomber entre n'importe quelle main. Il lui faut votre parole, je crois. Ou bien, vous n'aurez plus droit qu'à de brefs et secs bulletins, sans le plus petit ornement ou la moindre fioriture, sans une seule observation sur le caractère ou les manies de tel ou tel mortel, où jamais il ne se glisse une marque d'émotion ou d'attachement. Tout ceci me paraît d'une drôlerie consommée. C'est une manière toute masculine d'envisager la correspondance. Chacun sait que les lettres des hommes sont toujours vides d'intérêt comme des fusions. Je ne pouvais bien concevoir jusqu'à présent pourquoi ils leur donnaient une telle tournure. Peut-être ont-ils raison en un sens. Il se produit parfois de curieux accidents. Je vous écrirai la semaine prochaine si tout va bien, afin de fixer le jour de ma venue. Croyez-moi bien fidèlement vôtre, Charlotte Brontë. Charlotte Nichols.
Finalement, les jours, les semaines passent. Charlotte ne se rend pas chez Hélène Nessy à Brook Royd. Charlotte à Hélène Nessy.
Haworth, le 19 janvier 1855. Chère Hélène, je désire de tout mon cœur venir à Brook Royd. Je l'espérais bien pouvoir vous promettre dans ma lettre ma visite pour le 31 janvier, avec une certitude absolue. Mais le fait est que je ne sais pas si je serais en état de quitter la maison. Pour l'instant, je serais d'une compagnie bien pénible. Je me portais franchement à merveille depuis notre retour d'Irlande, jusqu'à ce que, voilà 10 jours, mon estomac perde soudain toute tonicité. Depuis lors, indigestion, nausées et défaillance sont mon lot quotidien. N'en concluez rien, ma chère Nell, il est bien trop tôt. Mais il est vrai que cela ne ressemble à rien de ce que je connais. N'en dites pas un mot à quiconque. Moi-même, je ne parviens pas encore à me former une opinion déterminée. Je suis joliment vexée de perdre ainsi ma bonne mine et mon embonpoint au moment précis où j'envisageais d'aller à Brook Royd. Chère Hélène, je suis bien décidée à vous rendre visite et j'espère que je vous trouverai en bonne santé. Avec toute mon affection au vôtre, fidèlement, Charlotte Bell Nichols.
Le révérend Arthur Bell Nichols à Hélène Nassy.
Haworth, le 14 février 1855. Chère Miss Nassy, la maladie de ma femme est un sujet que j'ai peine à aborder avec nos amis, puisque la cause en est toujours douteuse. Depuis quelque temps, elle est véritablement anéantie par la faiblesse, les maux de cœur et une fièvre récurrente. Tout ceci peut encore s'achever heureusement, comme je l'espère. Mais si vous l'aviez sous les yeux, vous concevriez bien qu'elle n'est pas en état de correspondre. Elle pense à vous, compatit à vos épreuves et désire vivement de vos nouvelles. Croyez-moi, bien sincèrement vôtre, Arthur Bell Nichols. Postscriptum. Mr. Bronte était fort bien jusqu'à une date récente, mais il souffre depuis peu des bronches.
Le révérend Bronte à Hélène Nassy.
Haworth, le 30 mars 1855. Ma chère madame, notre maison est plongée dans une grande détresse. Mr. Nichols est si éprouvé qu'il n'est plus assez maître de ses forces et de son esprit pour vous écrire. Je prends donc quelques instants pour vous annoncer que ma fille chérie est au plus mal, et selon toutes apparences, aux portes de la mort. S'il pouvait encore parler, ce serait sans aucun doute sous sa dictée que je répondrais à votre lettre affectueuse. Mais il nous incombe aujourd'hui de remplir seul ce devoir. Les médecins jugent son état désespéré. Et nous aussi avons perdu l'espoir que nous nous étions longtemps obstinés à chérir. Nous n'attendons plus que l'heure ultime et solennelle, en implorant Dieu de nous accorder la grâce et la fortitude nécessaires jusqu'à ce que sonne la nôtre. Croyez que je demeure votre serviteur sincère et respectueux, Patrick Bronte.
Charlotte Bronte meurt le 31 mars 1855, sans que sa maladie ne soit jamais précisément identifiée. Elle a 39 ans. Son père lui survit 6 années et meurt en 1861, à l'âge de 84 ans, après avoir enterré sa femme et leurs 6 enfants.
C'était « Correspondance de la famille Bronte », lettre choisie par Julie Aminte. Cinquième et dernier épisode. Avec les voix de Mélissa Barbeau, Jean-Claude Frissung, Thibault Lacour et Laurent Lederer. Musique composée et interprétée par Floriane Bonani. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Émilie Couette, Vivien Demeyer, Juliette Eman. Les lettres choisies de la famille Bronte, 1821-1855, dans la traduction de Constance Lacroix, sont publiés aux éditions Quai Voltaire, La Table Ronde.